cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 24 février 1987.
Injurier. sont extraordinaires aussi. Les philosophes s'injurient facilement les uns par rapport aux autres. Mais là, c'est particulièrement fort. Parce qu'ils le considèrent comme celui qui tue l'esprit. Comme celui qui a tué la vie de l'intelligence. Qui a vidé l'intelligence de son contenu. Je crois que c'est ça qui met en colère Hegel contre Kant. Alors comme la personne demeure, et c'est ça qui est intéressant ici, parce que vous voyez bien qu'on retrouve toujours, depuis Descartes, donc dans la philosophie moderne et contemporaine, que la personne c'est le noyau, le sommet de toute la philosophie. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on ne discute pas. C'est autour de la personne que se noue le problème philosophique. Alors on le noue différemment. On le noue dans la pureté des formes a priori et de l'aspect transcendantal, donc l'absolu de la critique pour Kant. Et pour Hegel, au contraire, c'est la vie de l'esprit. Puisqu'au fond, je crois que ce que Hegel met en pleine lumière, c'est l'aspect de la vie de l'esprit. Je ne dis pas l'esprit tout court, mais la vie de l'esprit. Alors, la personne, c'est vraiment ce qui fait le sommet, l'achèvement du côté de la vie de l'esprit. La perfection suprême, c'est l'épanouissement parfait et la fusion de deux fonctions correspondant aux deux catégories qui précèdent celle de la personnalité. Donc les deux catégories juste avant la personnalité étant la synthèse dernière. On ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller au-delà de la personne. La personne est vraiment ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre évidemment de la synthèse. Alors les deux catégories qui précèdent et donc qui constituent d'une certaine manière la personne, les deux catégories opposées qui font la tension perpétuelle de la personne et dont la personne donne la synthèse et l'unité, c'est la connaissance comme tendance à saisir l'universel dans la réalité. C'est tout le problème de Hegel, c'est l'universel qui assume le concret. C'est le lien entre l'universel et le concret. Et ça dit bien ce qu'on représente, cette tendance profonde de la vie de l'esprit. Pour nous, si vous voulez, dans une perspective réaliste, l'intelligence est à la fois ce qui saisit ce qui est. Et l'intelligence, c'est toujours l'universel. Rappelez-vous ce que je vous disais hier en terminant, parce que je crois que c'est ça la clé par rapport à toute la philosophie réaliste. L'appréhension, le jugement, l'appréhension, l'universel, le jugement, ceci est. Ceci est, vous êtes dans le concret existentiel, le plus grand et universel. Vous êtes dans ce qui a toujours de plus universel. Hegel veut faire la synthèse des deux. Aspects constants et la volonté primer dans les choses. La rationalité de l'esprit. La rationalité de l'esprit, ben, c'est l'universel. L'universel, l'être de raison. L'universel qui est le pur fruit de la raison. C'est ce qu'il y a de plus pur. Ça ne peut pas être plus pur que l'universel. Alors, la volonté, tendance à imprimer dans les choses, la rationalité de l'esprit, c'est la volonté qui fonde l'individualité de la personne. Donc, la personne sera la tendance, connaissance, volonté, puisque c'est ça l'esprit. Et la personne sera donc bien le sommet de l'esprit. C'est la volonté qui fonde l'individualité de la personne, la connaissance tendant plutôt, par sa saisie de la vérité universelle, à faire fusionner les esprits. Dans la personne, vous trouverez donc toujours ces deux aspects, l'individualité et l'universalité. Vous voyez ce que devient l'intuition première de Boès. C'est très loin, c'est évident. Quand vous regardez la définition de Boès et que vous regardez Hegel, mais vous retrouvez quand même toujours cette même chose. Et c'est ça peut-être le plus intéressant. Substance individuelle, nature rationnelle. Par le fait même, vous voyez toujours que la personne apparaît comme un tout. Le tout, c'est une synthèse. C'est une synthèse dont les éléments sont les plus opposés pour que la synthèse soit plus parfaite. La synthèse la plus parfaite, c'est ce qui unit les éléments les plus opposés. Or, dans la vie de l'esprit, l'intelligence et la volonté apparaissent comme les deux tendances les plus parfaites, les plus fortes. Et à l'intérieur de la connaissance et à l'intérieur de la volonté, mettez les deux tendances les plus grandes. Vous avez donc, j'allais dire, deux tragiques. Le tragique de la connaissance, ce qui se dira ouvertement avec Nietzsche, le tragique de la connaissance et le tragique de la volonté. Et vous faites la synthèse des deux. Et vous avez ce sommet de l'esprit. Et c'est la synthèse des synthèses, si vous voulez. Donc c'est le tout du tout. Connaissance et volonté étant supprimées en tant que tendance et réconciliées dans la personnalité pure. Puisque le tout réconcilie les oppositions. Le tout fait la synthèse. Donc, connaissance et volonté étant supprimées en tant que tendance. En tant que tendance, donc en tant que possédant en eux une force d'opposition. Parce que la tendance implique ça. Le trib de Hegel implique cette espèce de tension de quelque chose qui va vers les deux extrêmes. Donc cette tendance étant supprimée en tant que tendance, la tendance de la connaissance et de la volonté, ces oppositions de la connaissance et de la volonté étant supprimées en tant que tendance et réconciliées dans la personnalité pure, celle-ci, en tant qu'elle est la dialectique consciente d'elle-même, se présente comme la plus grande profondeur de subjectivité unie à l'objectivité la plus vaste. Autrement dit, c'est la clé de voûte de tout le système hegelien. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est la clé de voûte de tout le système hegelien. Puisqu'on a, on peut, je crois, préciser que la personnalité pure, en tant qu'elle est la dialectique consciente d'elle-même, la dialectique n'est consciente d'elle-même qu'au terme de la dialectique. Mais comprenez bien, il n'y a jamais de terme de la dialectique. C'est ça qui perpétuellement. Vous vous refaites. C'est un peu comme un mouvement continu. Quand vous arrivez au terme, vous reprenez tout. C'est le devenir absolu, si vous voulez, puisque c'est le devenir qui absorbe l'être. Et c'est la... C'est cette tendance qui est dépassée par moments et qui redonne une nouvelle unité. C'est pas commode à penser, mais vous essayez de le comprendre. Parce qu'il y a quelque chose de grand. C'est sûr, dans Hegel, il y a quelque chose de grand. C'est complètement à côté. Mais il y a quelque chose de grand. C'est génial, si vous voulez, sous un certain aspect. Parce que on l'a dit, et je crois que ça reste très vrai. Jusqu'à Hegel, d'une certaine manière, la pensée était dominée par Aristote. Avec Hegel, c'est lui qui remplace Aristote. C'est pas Descartes qui remplace Aristote. Vous voyez la différence ? Descartes s'oppose à Aristote. Il le dit textuellement. Puisqu'il dit que, à la place de mettre l'interrogation, ceci existe-t-il ? Comme première interrogation, avant qu'est-ce ? On inverse l'ordre. Donc, c'est l'antithèse aristotélicienne. Tandis que Hegel dit, le seul qui peut former, c'est Aristote. Il le dit dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la philosophie. Il reconnaît que le seul génie avant Hegel, c'est Aristote. Ça, c'est très net. Platon ne forme pas. Il ne peut pas former. Le seul qui peut former, c'est Aristote. Ça, c'est très intéressant parce que c'est par la philosophie aristotélicienne, je crois, qu'on peut comprendre Hegel. Et que Hegel, à sa manière, redonne une synthèse philosophique très extraordinaire. Alors, ce qui est très curieux, c'est que Hegel veut être dans le prolongement d'Aristote. Alors, est-ce que vraiment Hegel est dans le prolongement d'Aristote ? Ça, c'est autre chose. Mais c'est là où il faut essayer de saisir. Ce qui est sûr, c'est qu'il considère que Aristote est le seul qui forme. Pourrait dire, vous voyez, comme le sommet de la philosophie aristotélicienne, c'est l'acte. Le sommet de la philosophie hegelienne, c'est la personne. Ça me semble net. Or, nous avons dit, la personne dans la philosophie aristotélicienne, dans une philosophie réaliste, c'est le comment de l'acte. Toute la philosophie hegelienne, c'est le comment. Ce n'est plus le tiesti. Faites ceci, si vous voulez, pour essayer de comprendre un peu. Parce que c'est ça qu'on doit essayer, de, à la fois de voir la diversité et de voir qu'on retrouve toujours les mêmes réalités. Donc vous avez le ceci existe-t-il. quand vous posez la question « Est-ce que ceci existe ?», vous répondez en disant « Ceci est ». Et puis quand vous posez la question « Qu'est-ce ?», vous répondez par l'acuité. Ceci est telle réalité, telle nature. Vous répondez par le point de vue quantitatif ou par le point de vue des principes et des principes propres. Pour Descartes, on commence par les idées. Elles sont innées. Donc vous trouvez tout en vous. Pas la peine de regarder l'univers en premier lieu. Ne regardez surtout pas votre voisin en premier lieu. Ne regardez pas l'autre en premier lieu. Regardez-vous. Attitude méditative, si on peut dire. Vous découvrez les idées innées. L'idée d'infini. Faut pas l'oublier. L'idée d'infini. Si vous avez l'idée d'infini, vous avez tout. Puis vous vous demandez, est-ce que cette idée existe ? Et voilà le mouvement inverse, hein. Ça c'est net, vous avez deux mouvements tout à fait différents. Alors ce qui serait intéressant, c'est de regarder par rapport à l'appréhension et le jugement. Si l'appréhension nous donne les idées, c'est sûr, il nous donne les concepts, distinguons les deux, mais c'est l'appréhension qui est source des concepts. C'est dans l'appréhension que je découvre en premier lieu l'universel. Et le jugement, et ensuite alors, il y a séparation des deux, ce que nous avions vu. Déjà, je suis en calme, hein. Séparation de l'appréhension et du jugement. Et l'appréhension est considérée comme première, et à partir de là, j'essaie de comprendre la réalité. Dans Hegel, qu'est-ce qu'il y a de premier ? Ça qui est intéressant, quelle est l'intuition dominante de Hegel ? Il faut se poser la question. Tant qu'on l'a pas saisi, on ne comprend pas. Et c'est pas commode, parce qu'il veut être dans la ligne aristotélicienne. Du moins, je ne dis pas qu'il veut être dans la ligne aristotélicienne, mais Hegel est croyant. Il est croyant. Donc, la foi est d'une certaine manière première. Je suis luthérien, hein, n'oubliez pas la grande affirmation. Je suis luthérien, donc c'est à partir de la foi, à partir de cette affirmation, comme disait M. Bourgeois, qu'on peut découvrir l'intuition hegelienne. Et je crois que c'est très astucieux de faire ça. Parce que la foi, d'une certaine manière, fait la synthèse des deux. La foi n'est pas du côté de l'appréhension, la foi n'est pas du côté de l'existence. Et la foi vous donne un nouveau jugement d'existence, qui est un jugement d'existence par rapport au comment, au pose. Dieu existe. C'est l'existence première. La foi a ce privilège de me mettre en contact direct avec l'exister. Simple. L'exister premier. Dieu existe en premier lieu. Donc, c'est le pose. Et je crois que ça, c'est la clé hegelienne. Commençant par la foi, Hegel commence par l'esprit, synthèse de l'être et de l'esprit. La manière d'exister de l'esprit pur. Dieu est esprit. L'affirmation johannique. Dieu est esprit. Si je suis luthérien, j'affirme Dieu est esprit. Tout de suite. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, il est l'être premier, mais dans l'esprit. C'est la manière d'exister de l'être premier, qui est esprit, qui commande tout. Oui. commence par l'esprit. On ne commence pas par l'idée. Mais on commence par l'esprit. C'est la foi qui vous donne la clé de tout. Parce qu'on commence par l'esprit, donc on commence par l'être suprême. Or, vous voyez bien, qu'est-ce qu'il y a de suprême en Dieu ? C'est que cet esprit pur, c'est la personne. C'est les trois personnes dans l'unité. Donc c'est la dialectique suprême. Vous ne pouvez pas avoir une dialectique plus parfaite que celle de la très sainte Trinité. Puisque vous avez l'opposition des personnes, le Père et le Fils, et la synthèse Esprit-Saint qui est dans l'unité. Et ça, vous êtes en face de l'esprit pur. Et de l'exister pur. L'alpha et l'oméga, je commence par un jugement d'existence de Dieu et je termine par la personne. Et la personne rejoint le point de départ parce que dans la foi, l'alpha et l'oméga se tiennent. C'est le propre de la foi de faire que l'objet et la fin ne font qu'un. Donc voyez, la distinction entre appréhension et jugement est complètement résorbée. Ce n'est plus appréhension et jugement. C'est à l'intérieur même d'une adhésion plénière à l'exister suprême qui est pensée que je saisis toute chose. Et ce tout m'étant donné dès le point de départ, je le retrouve au terme. Je vous dis, c'est le mouvement de l'alpha et l'oméga. Le comment à ceci de tout à fait particulier, c'est qu'on commence par le tout. Seul le tout existe, à sa manière. Et c'est le tout qui commande tout. Donc, c'est d'une certaine manière une métaphysique. Je crois qu'on peut dire ça dans l'hégélianisme. C'est la métaphysique. Si c'est la métaphysique du comment, c'est donc la métaphysique de la personne. La personne est première et dernière. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. La foi nous met en contact direct avec une personne. Et la foi, plus je la creuse, me met en contact avec les trois personnes dans l'unité. Et dans l'unité personnelle. J'ai donc tout le mouvement dialectique à l'intérieur même de la foi. C'est pour ça que je crois que quand M. Bourgeois disait « Pour entrer dans la philosophie hegelienne, partons de cette grande affirmation « Je suis luthérien » et que c'est à l'intérieur même de cette affirmation qu'on découvre tout le mouvement de la pensée dialectique, il a parfaitement raison. La dialectique se fait à l'intérieur d'un jugement d'existence qui atteint le comment divin, la manière d'exister de Dieu. Dieu existe d'une manière absolument simple, mais Dieu existe en même temps dans la Trinité. Alors, je crois que c'est cela la clé de voûte, l'intuition hegelienne, c'est l'esprit trinitaire. Vous voyez, dans la foi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Dans la foi, ce n'est plus ma lumière, c'est la lumière de Dieu en moi. Et la foi, dans son propre mouvement, progressivement, résorbe complètement toute l'intelligence. C'est pour ça qu'au terme, il n'y a plus que Dieu. Hegel, c'est Dieu. La dialectique parfaite, c'est la Trinité. Et ça ne peut pas être autre chose, partant de la foi. Alors vous voyez, ce n'est plus la dialectique d'opposition, appréhension, jugement.
ça qu'on dira que dans l'hégélianisme, il y a une philosophie de droite et une philosophie de gauche. Parce que commençant par le comment, où vous aboutissez à un positivisme absolu, philosophie de gauche, où vous aboutissez à un absolu idéal, philosophie de droite. La Trinité, ça ne peut pas être une plus philosophie plus de droite que la très sainte Trinité. Et la philosophie de gauche, le marxisme, c'est quand même extraordinaire de voir comment, dans cette vision de foi, va être contenu les deux aspects extrêmes. On l'a dit, et on a raison de le dire, c'est à partir de l'hégélianisme que naît les idéologies athées. C'est vrai. Quand vous essayez de comprendre la position hégélienne, vous voyez que c'est un sommet tel qu'à partir de Hegel, tout éclate dans tous les sens. C'est difficile d'ajouter quelque chose à Hegel. C'est une telle synthèse. C'est difficile d'ajouter quelque chose à Aristote. C'est difficile d'ajouter quelque chose à Thomas d'Aquin. Alors vous avez les trois sommets. Vous avez le sommet, parce que je crois qu'Aristote est le sommet de la philosophie grecque. Je crois que Thomas d'Aquin est le sommet d'une théologie spéculative, scientifique, contemplative. Et Hegel, c'est un autre sommet. C'est la synthèse de la foi et de l'intelligence. C'est-à-dire d'une intelligence, d'une foi, d'une intelligence qui résorbe la foi, qui se sert de la foi pour comprendre que le trésor que nous donne la foi du mystère de la très sainte Trinité fait qu'à partir de ce mystère, il n'y a plus besoin de philosophie. C'est une philosophie trinitaire. La dialectique, c'est une philosophie trinitaire. On comprend très bien la très grande séduction. Et quand M. Bourgeois exposait ce que pour lui était la philosophie hegelienne, on sentait très bien que pour lui, il n'y avait rien au-dessus. Il ne pouvait rien avoir au-dessus. En effet, dans l'ordre du pose. Alors c'est curieux, vous voyez. C'est très curieux de voir que ces interrogations aesthésiques, ceci existe-t-il? Qui est-il? Qu'est-ce? Pose, comment? J'allais presque dire, vous touchez là les trois possibilités de synthèse philosophique. Une synthèse par l'appréhension. Une synthèse par le jugement. Une synthèse par le pose. Parce que c'est quand même très curieux de voir ces trois aspects. Alors vous voyez que le pose a l'immense avantage, c'est que le pose fait la synthèse des deux. L'esprit est toujours divisé en appréhension et jugement. C'est la division la plus radicale de l'esprit. Et l'esprit, divisé toujours par l'appréhension et le jugement, donne la synthèse dans le pose, dans le comment. Et c'est vrai. Le comment implique la synthèse des deux. Vous comprenez que le tiesti, vous êtes lié à l'appréhension, donc à l'universel. Le jugement d'existence, vous êtes lié au concret. Donc la synthèse du concret et de l'universel, c'est le pose. Et c'est ça que Hegel cherche, c'est la synthèse du concret et de l'universel. Et les donne en commun. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que la philosophie hegelienne, c'est une philosophie du comment. C'est une métaphysique du comment. Et la métaphysique du comment n'est possible que grâce à la foi. Et quand nous disons, avec saint Thomas, que la foi ne donne aucun nouveau concept, que la foi d'un homme, un nouveau jugement. Je crois que ceci, pour l'hégélianisme, c'est la plus grande erreur. Le jugement d'existence de Dieu absolument simple et le jugement d'existence de trois en un vous donne de nouveaux concepts. C'est-à-dire vous donne une dialectique. Et donc vous fait comprendre la vie de l'esprit. Ce n'est plus des concepts. Oui, c'est des concepts si vous voulez, c'est des idées. Mais c'est la vie de l'esprit. Alors, il faut réfléchir là-dessus. Je sais très bien que c'est complexe, mais c'est quand même très important de comprendre que l'hégélianisme est un sommet. À partir de Descartes, vous aboutissez à Hegel. Et qu'à partir de Hegel, c'est l'éclatement. Alors, ce qui nous intéresse ici, puisque nous sommes dans la dialectique de la personne, c'est de voir que le sommet de la pensée métaphysique sur la personne, c'est vraiment Hegel. C'est en ce sens-là que la philosophie de la personne nous permet de rejoindre ce qu'il y a de plus ancien, les balbutiements grecs. Et ce n'est plus des balbutiements, Hegel. Les affirmations les plus fortes dans la philosophie hegelienne. Je crois que nous pouvons le dire. Le sommet le plus élevé, le plus aigu, écrit Hegel, est la pure personnalité. C'est pas étonnant, c'est le beau suprême. Le beau suprême de l'esprit, c'est la personne. La manière d'exister de l'esprit, c'est la personne. Et donc, c'est normal, dans une philosophie du pos, mais la personne, c'est tout. Et je termine ma métaphysique sur la personne. C'est la personne, mais une personne. Une et trois. Une personne dialectique. Mais d'une dialectique sacrée. Hein. D'une dialectique à l'intérieur de la foi et dans la foi. Donc, réfléchissez bien sur cette affirmation parce qu'elle est très forte. C'est science de la logique. Hein. On va essayer de saisir ça. Le sommet le plus élevé, le plus aigu, est la pure personnalité, écrit Hegel. La pure personnalité qui, grâce uniquement à la dialectique absolue, qui est sa nature, embrasse tout et retient tout en soi. Parce qu'elle se porte à l'extrême liberté. Je crois que tout est dans cette phrase. Ça, il faut la méditer longuement. Et bien comprendre ce que ça veut dire. Venez. Au fond, vous n'êtes plus dans l'analyse. Vous êtes dans une pensée dialectique. C'est ça qu'il faut essayer de saisir au point de vue de la structure de la pensée. La dialectique, c'est le refus total de l'analyse. L'analyse est commandée par le tiesti. Et la dialectique s'installe dans le pos. Or, le pos, le comment, refuse toute analyse. Alors, comment trouver dans le pos le raisonnement? C'est un raisonnement dialectique. Il n'y a plus d'induction chez Hegel. C'est absolument impossible. Il n'y a qu'un aspect descriptif, dialectique, parce que la dialectique est descriptive. Alors vous comprenez comment la phénoménologie de l'esprit va donner naissance à toute la phénoménologie après. Vous ne serez plus dans l'analyse, mais vous serez dans un aspect descriptif. Alors, je reprends cette phrase parce que je voudrais que vous la méditiez pas trop longtemps parce que ne devenez pas hegélien. Le sommet le plus élevé, le plus aigu, est la pure personnalité. No. personnalité dans sa simplicité la plus absolue, qui grâce uniquement à la dialectique absolue, qui est sa nature. Alors évidemment, le mot nature prend une signification assez particulière, qui grâce uniquement à la dialectique absolue, qui est sa nature, embrasse tout et retient tout en soi. Donc c'est l'immanentisme le plus absolu, parce qu'elle se porte à l'extrême liberté. Pour que l'idée soit personne, il faut qu'elle dépasse le stade de la substance, où elle est encore limitée par la nécessité, et soit individualisée en tant que sujet. Je vous lis ce passage. Sans doute, la substance, c'est Hegel qui parle, hein, dans la science de la logique, sans doute, la substance chez Spinoza, parce que Spinoza, c'est celui qui a exalté la substance de la manière la plus forte qui soit. Sans doute, la substance chez Spinoza représente l'unité absolue de la pensée et de l'être. Elle contient donc la pensée elle-même, mais seulement comme unie à l'étendue, comme inséparable de l'étendue, donc non comme un pouvoir de définition et de formation, ni comme un mouvement dont elle serait à la fois le point de départ et le point d'aboutissant. Il manque ainsi à la substance le principe de personnalité. C'est le principal reproche qu'on est adressé au spinozisme. Vous voyez comme c'est intéressant. Vous savez bien, c'est toujours quand un philosophe critique un autre philosophe qu'on saisit le mieux son intuition. Ça, c'est une méthode philosophique extrêmement, très importante. C'est quand Aristote critique Platon que vous saisissez ce que c'est que l'aristotélisme. C'est normal, puisque c'est par la négation qu'on s'affirme le plus. Psychologiquement, vous savez bien, c'est pour ça que vous aimez désobéir. Parce que vous vous affirmez beaucoup plus en désobéissant qu'en obéissant. En obéissant, vous êtes bouton de panurge. Psychologiquement parlant. C'est pas la réalité, mais c'est psychologiquement parlant. Tandis qu'en niant, vous vous affirmez, vous êtes quelqu'un quand vous niez, puisque vous vous opposez à quelqu'un. Psychologiquement, c'est la psychologie et l'exaltation de la négation, puisque c'est par la négation que la subjectivité s'affirme le plus. C'est pour ça que quand la psychologie devient l'absolu, ben, l'obéissance disparaît. Pour que l'obéissance réapparaisse, il faut la finalité. Donc il faut l'objectivité du bien. Ça, je crois qu'on peut le saisir assez facilement. Donc c'est quand Hegel s'oppose à Spinoza en faisant comprendre que le grand reproche qu'il fait à Spinoza, c'est d'avoir oublié le principe de personnalité. Qu'est-ce que c'est que le principe de personnalité ? Ce qui parle de principe, en réalité, c'est pas du tout principe, c'est le pose, c'est le comment de la personnalité. Si on pouvait corriger Hegel, on dirait c'est le comment de la personnalité. Donc, il a oublié ça. Il a exalté la substance. Il a fait dans la substance, et il le dit, c'est très fort et c'est intéressant. Sans doute, la substance, chez Spinoza, représente l'unité absolue de la pensée et de l'être. L'unité absolue de la pensée et de l'être, ben c'est tout le désir de Hegel, ça. L'unité de l'esprit et de l'être, c'est bien ce qui existe en Dieu, c'est que la pensée et l'être ne font qu'un. Ben ça a été le désir de Spinoza. Spinoza n'a pas fait autre chose que ça, par le point de vue de la substance. Dans ce point de vue de la substance, il a fait cette unité absolue de la pensée et de l'être. Elle contient donc la pensée elle-même, mais seulement, alors voilà le petit reproche, elle contient la pensée, mais comme unie à l'étendue. identifier ce que les vieux Grecs faisaient, l'imaginaire et l'intelligence. Vous savez, Aristote dit cette chose très extraordinaire, que la plupart identifient l'imagination et la pensée. Hegel fait ce reproche terrible à Spinoza. Ils sont farouches, les philosophes, entre eux.